J'invite tout de suite Laura Bonnefoy, vice-présidente du département, chargée de la dépendance et des handicaps, à ouvrir cette journée. Madame Bonnefoy, si vous voulez bien vous.
Eh bien, bonjour à tous. C'est pour moi un honneur d'ouvrir cette journée d'échange sur la loi du 11 février 2005, dite loi handicap, tellement fondatrice et novatrice en matière de politique du handicap. J'y reviendrai, mais tout d'abord, je voudrais remercier Grenoble École de Management et tout particulièrement Madame Laurence Sirac, non seulement de nous accueillir, mais aussi d'avoir contribué avec toute son énergie à la réussite de cette journée. Collaborer avec une prestigieuse école de management de commerce sur la thématique du handicap me fait dire qu'il y a eu bien des évolutions positives depuis 15 ans. Je voudrais également remercier les animateurs des ateliers qui se sont investis pour vous permettre de débattre cet après-midi, ainsi que les associations ou organismes qu'ils représentent. J'aime le centre de gestion, l'Union départementale des familles, le PREGI, la FIP, l'APF et Handiréseau. Et enfin, merci aussi aux participants de la table ronde et à son animateur, M. Franck Seret, à qui je laisserai le soin de faire les présentations. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées à 15 ans. C'est l'âge de l'adolescence, l'âge où on dit des enfants qui sont en pleine croissance, qu'ils ont un gros potentiel, qu'ils sont un peu rebelles, mais qu'ils seront bientôt matures. Quelque part, je me dis que l'analogie avec la loi ne serait pas insensée. Elle est bien née, tout le monde s'accorde à le reconnaître et à admettre son côté visionnaire. Elle est faite pour durer. Personne ne semble vouloir lui souhaiter une disparition prochaine dans un nouvel épisode législatif. Elle a en elle les capacités à créer une société meilleure pour les personnes handicapées, mais après 15 ans, elle n'a pas encore atteint son stade de développement adulte. Et comme pour nos enfants, nous devons l'entourer, la guider, afin que toutes les promesses qu'elle contient éclosent enfin et perdurent sans risque de régression. Madame Monchon, que vous retrouverez dans le documentaire de ce soir, avec toute sa combativité, a dit un jour, une politique peut convenir que certaines choses ne sont pas atteignables en l'état, mais le pire, c'est quand on les ignore. Comptez sur moi et sur l'action du département de l'Isère pour qu'il en soit ainsi. Mais je sais que le timing de la journée est serré et je suis certaine que les participants à la table ronde et vous tous dans les ateliers pointeront sans se tromper les acquis de la loi qui ont permis des avancées incontestables, mais aussi ce qui n'a pas été encore appliqué et qui devrait l'être pour lui donner toute sa mesure. Je vous remercie et cède la parole à M. Franck Seret.
Voilà donc le premier temps de la journée, qui est cette table ronde consacrée à la loi de 2005. Pour bien en saisir les enjeux, je vous invite à faire un petit saut dans le passé, alors pas 15 ans en arrière, parce qu'en fait cette loi a été promulguée il y a 15 ans tout juste, mais son point de départ, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était le 14 juillet 2002. Jacques Chirac vient d'être réélu, il s'adresse en français, alors je ne vais pas voir sa solennité, mais voilà ce qu'il dit, et ça me semble très important de le rappeler. Je voudrais marquer ce quinquennat par trois grands chantiers, dit-il aux Français, face caméra, et le président dresse les priorités de son second mandat. L'insécurité routière, le cancer, et les handicapés, c'est le terme qu'il emploie à l'époque, qu'on n'emploierait plus aujourd'hui, les handicapés qui, en France, n'ont pas encore trouvé leur place convenablement de façon digne. Donc c'est ainsi qu'il lance ce chantier qui aboutira 2 ans et demi plus tard à l'adoption par le Parlement de la loi de 2005. Alors, est-ce que cette loi a donné une place digne, puisque c'était la mission que Jacques Chirac, l'objectif en tout cas vers lequel il tendait. Est-ce que cette loi a donné une place digne aux Français en situation de handicap? Bertrand Cantin est philosophe, je ne sais pas si c'est exactement comme ça que vous poserez les termes de la question, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'en fait vous allez nous aider à avancer dans notre réflexion, à l'aune de vos travaux sur le handicap en tant que philosophe. Vous avez beaucoup réfléchi à cette question, je vous invite à me rejoindre ici. Vous avez publié La philosophie face au handicap et Les Invalidés, qui est votre dernier ouvrage, Nouvelle réflexion philosophique sur le handicap. Et donc c'est pour ça que ça nous paraissait particulièrement intéressant que vous puissiez nous amener à avoir cette matière philosophique sur le handicap. Merci.
Un protagoniste africain, interrogé sur les difficultés de résistance africaine au pouvoir colonialiste, répondait désabusé: c'est difficile de résister quand on n'a pas de livre. Ils arrivaient avec la Bible, nous n'avions rien. Les hommes ont besoin de concepts pour résister au sein d'une situation oppressive. Et le monde du handicap peut s'envisager comme un ensemble de personnes subissant une forme d'oppression. La loi est une première façon de résister à des formes de discrimination jusque-là non nommées, et cela a été un grand apport de la loi de 2005. Mais la loi de 2005 a eu aussi des effets collatéraux dont on n'a peut-être pas toujours conscience. La France était très très en retrait en 2005 par rapport à une culture de l'inclusion, et notamment dans le domaine de la recherche, que les anglo-saxons appelle « disability studies », c'est-à-dire les études, la recherche dans le domaine du handicap. Du fait de sa médiatisation, et Franck Sorel a rappelé Jacques Chirac qui est pour beaucoup, cette loi a induit un coup de projecteur sur la question du handicap. Je n'aurais peut-être pas dirigé mes recherches philosophiques universitaires dans le domaine du handicap s'il n'y avait pas eu la loi de 2005. Le développement de la recherche universitaire a eu une réalité tangible. Charles Gardou à Lyon, Marlène Jouan à Grenoble, Pierre Ancet à Dijon. Pour ce qui me concerne, à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, devenue depuis le 1er janvier université Gustave Eiffel, j'avais, avec la philosophie face au handicap, montré les ravages de ce que j'ai appelé l'empathie égocentrée. Alors qu'est-ce que c'est que l'empathie égocentrée? C'est un concept qui rend compte de cette situation très fréquente où la personne dite valide croise une personne en situation de handicap. Elle fait un effort pour se mettre à sa place, donc on a bien une empathie, un effort d'empathie, se mettre à la place de l'autre, ce qui part donc d'un bon sentiment, mais qui peut provoquer un dégoût, un frisson d'effroi, par exemple, car nous imaginons qu'il nous serait insupportable de vivre sans avoir de bras, en ayant des jambes tordues, en parlant avec une élocution hachée. Donc ce réflexe de la personne valide qui, voyant la personne handicapée, se met à sa place, mais elle se met à sa place en partant de sa propre position, donc empathie égocentrée, et ça amène à faire une erreur logique assez fréquente. Nous imaginons la personne handicapée malheureuse et en souffrance permanente. D'où notre difficulté à lui parler normalement. Nous marchons sur des œufs, craignant l'impair. Dans le fait de se mettre à la place de la personne, il y a un effort louable, je l'ai dit, mais cela reste un demi-effort. Il y a bien une empathie, mais une empathie qui reste égocentrée en conservant les réflexes de la personne valide. Une empathie plus authentique impliquerait d'écouter davantage ce que les personnes handicapées peuvent nous dire avant de nous imaginer à leur place. Et c'est là où la loi de 2005, de proche en proche, a eu cet effet d'affirmer la revendication d'une parole qui viendrait des personnes handicapées elles-mêmes et amènerait à ce qu'Edgardien a appelé des savoirs expérientiels. Un autre concept que j'ai mis à jour et qui manifeste une défiance dommageable dans nos comportements à l'égard des personnes en situation de handicap, ce sont les compensations inopportunes. Compensations inopportunes, de quoi s'agit-il? Il s'agit de réponses inadaptées à une vulnérabilité réelle. Les professionnels qui travaillent dans le monde du handicap, les familles elles-mêmes, peuvent en venir à une forme de compassion qui les amène à vouloir retirer à la personne en situation de handicap un souci, un fardeau, une épreuve de la vie de tous les jours, Le raisonnement étant, c'est déjà difficile d'être handicapé, alors on ne va pas lui ajouter ce poids supplémentaire. Alors si ce raisonnement est légitime pour certaines tâches administratives, par exemple, il vire à la faute humaine quand, sous prétexte d'alléger l'existence de l'autre, on lui retire ce qui fait partie de la condition humaine et qui nous forge aussi dans la patience, l'effort et les échecs. C'est particulièrement vrai devant l'épreuve du deuil, que certaines âmes charitables veulent épargner à une personne handicapée mentale ou psychique en disant « on ne va pas l'emmener à l'enterrement, ça va être trop dur pour elle, elle ne va pas comprendre, etc. » Cela est vrai également dans le refus de permettre des expériences amoureuses, de peur que la personne ne supporte pas les revers inhérents à ce type d'aventure. C'est vrai qu'il n'y a que les personnes handicapées qui se soient fait plaquer en amour. La vulnérabilité de l'autre est prise ici comme prétexte pour lui supprimer une épreuve, certes difficile, mais qui appartient à notre condition humaine partagée. A donc lieu une compensation, on compense par rapport à un handicap, mais une compensation inopportune parce qu'elle prend place dans un domaine qui ne devrait pas donner de passe-droit. Nous sommes ainsi rejetés de la condition humaine, nous ne faisons plus corps avec le reste des hommes parce que notre corps dérange psychiquement les dits valides. Je crois que la loi de 2005 m'a amené dans mon travail de philosophe à réaliser un véritable effort d'équilibriste pour obtenir à la fois une rigueur scientifique et une accessibilité de la philosophie. J'aime beaucoup cette formule de Günther Anders qui nous dit qu'un universitaire, un philosophe, ne doit pas être comme un boulanger qui ne ferait ses petits pains que pour d'autres boulangers. La loi de 2005 parlait d'accessibilité, eh bien la philosophie doit aussi pouvoir être accessible au grand public, et cela également dans la conceptualisation par rapport au domaine du handicap. Dans mon dernier ouvrage, donc, qui porte le titre « Les invalidés, nouvelles réflexions philosophiques sur le handicap », on pourrait s'interroger sur ce type d'invalidé. On connaît le terme « invalide » qui appartient à la langue française, même s'il commence à avoir une connotation un peu désuète. J'ai choisi ce néologisme d'invalidé pour souligner que certains hommes subissent dans cette vie une forme d'invalidation. Cette invalidation peut venir de la société qui, par exemple, ne donne aux personnes en situation de handicap que des possibilités de participation limitées. Les invalidés attirent donc l'attention sur le modèle social du handicap pour le distinguer d'une conception purement physiologique du handicap qui serait le modèle individuel ou modèle médical, où le grand public pense se situer la réalité du handicap. Avec le modèle social, on considère que le handicap est une réalité relative, que la déficience de tel ou tel individu n'aura un impact que selon la manière dont la société est organisée. J'aime bien reprendre le titre d'un article de 1977 de Bernard Mottez, qui nous fait prendre conscience que dans le grand public, on fait souvent une confusion entre déficience et handicap. Et ce titre d'article était « À s'obstiner contre les déficiences, on augmente souvent le handicap. » À s'obstiner contre les déficiences, on augmente souvent le handicap. Et dans cet article, Bernard Mottez, on est en 1977, proposait une autre définition du handicap. Il nous disait « Le handicap, c'est l'ensemble des lieux et des rôles sociaux desquels un individu ou une catégorie d'individus se trouve exclu en raison d'une déficience. L'ensemble des lieux ou des rôles sociaux desquels un individu ou une catégorie d'individus se trouve exclu en raison d'une déficience. » Donc bien avant la CIF et les travaux de Fougérolas au Québec, le handicap est défini par des lieux ou des rôles et non par des infirmités. Nous devons penser le handicap comme produit par un rapport à un lieu physique particulier, par exemple très mal conçu. Quand un amphithéâtre est très mal conçu, le handicap de la personne augmente, quelle que soit sa déficience. Ce sont les habitations totalement inadaptées qui rappelleront sans cesse aux personnes handicapées qu'elles sont différentes. Cet après-midi, il y aura cet atelier sur le chez-soi, vivre l'habitation inclusive, l'habitat inclusif. Il faudra donc s'attaquer aux dispositions architecturales, impossibilité d'accès, aux problèmes de luminosité, de taille d'affichage, difficulté de visualisation. Si en effet les accès aux trottoirs, bus, collège, lycée, mairie se font bien, et j'ai lu à plusieurs reprises que Grenoble est dans le top one des villes françaises pour l'accessibilité, en tout cas pour l'accessibilité motrice, lorsque la mairie a fait travailler des experts dans ce domaine, lorsque vous avez des problèmes de vision, mais qu'encore une fois la mairie fait travailler des experts de la déficience visuelle sur la luminosité des affichages, alors mon handicap diminue. Même chose si on fait des travaux de traitement acoustique adéquat dans le bâtiment municipal. Plus nos déficiences sont grandes, plus les structures spatiales et architecturales peuvent être déterminantes dans leur prévention, leur réduction ou leur aggravation. Par rapport à cette idée de social et donc d'invalidation par le social, quand le grand public arrive à penser le handicap non seulement en termes d'individus, mais aussi de responsabilité collective, c'est un objectif important et qui est dans le droit fil de la loi de 2005. Nous invalidons des individus du seul fait de ne pas penser à leur intégration dans la société d'aujourd'hui. Ces individus ne sont pas alors seulement des invalides, mais des invalidés. Pour finir, par-delà la loi de 2005, une lecture politisée du changement de paradigme en cours, parce qu'on assiste depuis 2005 à un véritable changement de paradigme, ce changement de paradigme consisterait aussi à penser que la somme qu'investirait la société dans une vie en institution fait progressivement place à une somme versée aux parents pour que ceux-ci choisissent les prestations souhaitées pour leur enfant. Mais derrière ce libéralisme peut se cacher un marché de dupes. Devant des parents précarisés, il n'est pas sûr que le mirage d'un peu d'argent saupoudré ne soit pas un piège pour remettre en question de vrais services globaux. Robert Castel disait que les institutions sont un bien commun pour les non-propriétaires. C'est une formule que j'aime beaucoup. Les institutions sont un bien commun pour les non-propriétaires. Alors, par rapport à la loi de 2005, nous savons tous ici que cette loi n'a pas réglé d'un seul coup de baguette magique les problèmes dans la scolarisation, dans le travail, dans le logement, la santé et l'accès à la participation sociale. Ce sera l'objet des ateliers de cet après-midi de développer ces points. Mais rappelons-nous aussi d'où l'on vient et de la réticence française à parler du handicap qui a commencé à être battue en brèche par cette loi de 2005. Et je termine donc là-dessus. Merci.
Merci à Monsieur Quentin. Donc, je vous invite à venir me rejoindre ici. Vous avez un micro juste sur le siège. Donc, trois personnes vont venir participer à la table ronde, comme convenu. Françoise Braoudakis, je vous invite à nous rejoindre. Vous êtes présidente de la délégation UNAFAM de l'Isère. L'UNAFAM, je rappelle, pour ceux qui l'ignoraient, c'est l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. Denis Simian, voilà. Vous êtes président de NEA, un groupe d'entreprises adaptées. Mettez-vous là. Un groupe d'entreprises adaptées. Vous avez été vice-président puis président de l'Union nationale des entreprises adaptées de 2002 à 2006, pile poil la période qui nous intéresse. Les choses sont bien faites. Et puis Florence Lombard, vous êtes présidente déléguée de l'association familiale de l'Isère pour personnes handicapées. Les entreprises adaptées, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des entreprises qui emploient un pourcentage très important de personnes en situation de handicap. Voilà. Donc c'est régi par un contexte réglementaire, ne peut pas être entreprise adaptée. Il faut répondre à un certain nombre de critères. Ah. Donc je vais parler plus près du micro, et si on peut peut-être augmenter le son également. L'idée de cette table ronde, ce sera de procéder en deux temps. Je vais commencer par un petit tour de table. Chacun va me dire quel est à ses yeux le principal acquis de la loi de 2005. Voilà, c'est la consigne que je vais donner, c'est vraiment libre. Chacun dit, bah voilà, moi, ça me semble très intéressant. Et dans une deuxième partie, on fera un petit temps après d'échange, de débat sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a d'autres acquis, voilà. Et puis, dans un deuxième temps, on ira sur les limites, toujours sur selon ce même format, chacun a 2 minutes pour nous dire, bah voilà, moi, ça me paraît particulièrement problématique, cette limite. Donc, écoutez, je commence par vous. Donc, sur la question, effectivement, des acquis. Donc, pour vous, quel est le principal acquis de la loi 2005?
Bien, pour nous, à l'UNAFAM, le principal...
Allez-y, si ça marche, il faut vraiment mettre près de sa bouche.
Le principal acquis, c'est déjà la reconnaissance en soi du terme psychique dans la loi. Ça a été un grand, grand événement, source d'espoir immense, parce que ça a mis fin, on espérait alors, mis fin à la stigmatisation de nos malades psychiques. Donc, cette reconnaissance du handicap a été vraiment un grand pas dans la prise en charge de nos proches, sur le plan, bien sûr, mais des soins, c'était déjà en cours, mais sur le plan médico-social. Donc, nos proches sont retrouvés donc en droit, en égalité avec tous les autres malades handicapés, et pouvaient avoir accès donc à tous les services de proximité, tels des services d'accompagnement comme les SAMSA, des services de logement accompagné, de travail accompagné. En fait, cela a été une ouverture pour nos proches qui trop souvent sont encore au domicile des parents, pour les 30% d'entre eux encore, bon, nous y reviendrons. Donc, voilà l'essentiel pour nous.
D'accord. Donc, la reconnaissance du handicap psychique, effectivement, qui a ouvert tout un tas de droits. Au même titre que les autres handicaps. Madame Lombard, donc, présidente déléguée de l'association familiale de l'Isère pour personnes handicapées, pareil, même question. Le principal acquis, à vos yeux, de cette loi de 2005?
Alors, pour nous, le principal acquis de la loi de 2005, c'est une vraie reconnaissance du handicap. Alors, bien sûr, par la définition qui précise que le handicap, c'est une limitation d'activité, ça n'est plus un diagnostic, donc les choses sont claires là-dessus. Hein. Et au-delà de cette définition, qui couvre du coup tout un tas de situations, et notamment des situations nouvelles, hein, on a par la loi la reconnaissance de l'égalité des droits. En fait, cette loi, elle permet de basculer dans le monde du droit commun. La personne handicapée a accès à des droits qui sont les droits de tout le monde, les droits du droit commun. Et puis, c'est tout marqué dans le titre, hein, pour avoir cette égalité des droits, eh bien, il faut l'égalité des chances. Et l'égalité des chances, c'est des compensations. Et la loi est très claire sur ces compensations, sur ce droit aux compensations, qui effectivement après entraîne énormément de choses très concrètes dans le quotidien des personnes en situation de handicap.
Donc compensation, c'est-à-dire l'accès à des aides humaines, l'accès à des aides techniques, les aides animalières, l'aménagement
oui,
du logement.
Oui, mais c'est aussi la reconnaissance de choses qui paraissaient évidentes mais qui ne l'étaient pas, comme la langue des signes, qui est officiellement reconnue une langue à part entière, comme la place reconnue et non négociable des chiens guides d'aveugles. Donc il y a à la fois des choses très fondamentales dans les droits et des grands principes, comme les compensations, les aides, la PCH, etc., qui sont après mises en œuvre par les MDPH, mais il y a aussi des droits fondamentaux sur des choses concrètes, mais qui sont extrêmement importantes pour les personnes handicapées.
Très bien, merci beaucoup. Monsieur Simian, excusez-moi.
Bon, moi, je parlais que de la partie travail professionnel, puisque c'en est un. Donc, la loi de 2005, ça a été une loi de compensation. Elle a permis, dans un premier temps, suite à la première loi pour les entreprises, c'était la loi de 87, qui a créé l'obligation d'emploi des personnes en situation handicapée à l'époque. Effectivement, en situation de handicap, c'est fait après 2005. Et pour le coup, la compensation dans l'accessibilité au travail a été la transformation, à notre avis, de l'atelier protégé à l'époque en entreprise adaptée, qui est venue, c'est une démarche inclusive en fait, qui est venue dans le monde du travail, aux côtés des entreprises classiques, créer un vecteur d'inclusion professionnelle pour les personnes handicapées qui étaient exclues du monde du travail.
Donc, voilà. Si je comprends bien, en fait, avant, il y a toujours les ESAT, enfin, les établissements et services d'aide par le travail.
Tout à fait.
Qu'on appelait les CAT auparavant, les services d'aide par le travail. Les ateliers protégés qui existaient auparavant, mais qui n'était pas dans le droit commun.
Qu'il était, mais de manière discriminatoire, on peut dire, pour les personnes en situation de handicap elles-mêmes.
Et donc la loi 2005, ce qu'elle a fait, c'est que les entreprises adaptées les a mis du côté du milieu ordinaire.
Elles sont devenues, par la loi 2005, des entreprises à part entière du milieu ordinaire de travail, ne serait-ce que parce que les personnes qui pouvaient être proposées par le service public de l'emploi aux entreprises adaptées étaient des personnes qui avaient la même orientation, c'est-à-dire orientation milieu ordinaire de travail, ce qu'on appelait que les entreprises classiques.
Ok. Alors, on peut réagir, Monsieur Quentin, vous prenez la parole quand vous voulez pour...
Moi, j'aurais tendance à dire de manière un peu caustique que l'acquis de la loi de 2005, ça doit être qu'il n'y ait plus aucune loi sur le handicap, que ce soit la dernière loi sur le handicap. Pourquoi ? Parce que faire une loi sur le handicap, c'est faire comme si on faisait une loi sur des citoyens particuliers, différents des autres. Mais à partir du moment où on considère que les personnes en situation de handicap sont des citoyens comme les autres, on ne doit plus faire de loi spécifique. On doit faire des lois sur tel ou tel sujet, avec des attendus qui expliquent comment on fait une mise en œuvre plus pratique pour certains publics, mais les lois ne doivent plus être destinées à un public qui serait celui des personnes handicapées.
Enfin, je vais rebondir sur ce que vous dites, puisque personne ne l'a souligné. Un acquis de la loi importante de 2005 me semble également l'éducation, puisque la loi de 2005 inscrit le fait que l'école, mon école à moi, enfants handicapés, c'est l'école de mon quartier et non plus tel ou tel établissement spécialisé. C'est vraiment, voilà, j'ai le droit d'être inscrit à l'école de mon quartier. Mais on voit, enfin là, j'ai peut-être mordre un petit peu sur la partie après, sur les limites, c'est que si on se contente juste de dire que c'est l'école de mon quartier et qu'on ne réfléchit pas à l'accompagnement de ces enfants, que ce soit faire les AVS, mais pas que les AVS, l'adaptation des méthodes pédagogiques, des logiciels, enfin, l'aménagement de son travail, on loupe. On le peut muter.
Bien sûr, et on sait toujours un parcours du combattant pour un parent d'enfant handicapé d'arriver à inscrire son enfant dans le milieu ordinaire, mais il n'empêche qu'en 2006, on avait 100 000 enfants en situation de handicap à l'école, et aujourd'hui, il y en a 340 000. Ça, c'est un acquis de la loi de 2005. Donc, il y a toujours des efforts à faire, et encore une fois, on voit les choses insatisfaisantes, mais remarquons ce mouvement vaste qui modifie la donne. Et l'école, vous avez tout à fait raison d'insister sur l'école, parce que c'est l'école qui forge notre manière de penser le handicap en tant qu'adulte. On peut bien aujourd'hui dire aux entreprises, ah, vous devriez accepter davantage de salariés handicapés, et dire aux collègues, ah, tu devrais faire un effort. Mais si on n'a pas côtoyé d'enfants handicapés sur les bancs de l'école, ça nous paraît bizarre d'avoir un collaborateur handicapé dans l'entreprise. Si inversement, c'est quelque chose qui a été normalisé dans toute notre vie scolaire, eh ben, ça sera dans la continuité. Donc c'est vraiment un axe fondamental, l'école.
Sentez-vous libre de réagir par rapport à ce qui se dit entre vous?
J'aurais voulu rajouter aussi un autre droit fondamental qu'il faut mettre en avant de cette loi, c'est le droit à l'autodétermination et à la parole. Alors là, on est dans la continuité de la loi de 2002, puisqu'en 2002 déjà, la place de l'usager avait été reconnue, mais la loi de 2005, elle va plus loin, c'est-à-dire que la personne en situation de handicap a le droit à donner un avis sur son propre projet, sur son parcours, sur les décisions qui vont impacter son devenir. Mais on a aussi obligation de recueillir la parole de la personne handicapée dans toutes les instances nationales ou locales. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Même si la citoyenneté sur le terrain, elle existait déjà, dans les associations, on avait déjà donné la parole aux personnes en situation de handicap, la loi de 2005 a entériné cet aspect-là aussi.
Oui. Juste pour compléter pour les malades psychiques, en 2005, il y a eu la création des GEM, des groupes d'entraide mutuelle.
Donc groupe d'entraide mutuelle, hein.
Voilà,
parce que quand on est ici à GEM, mais Grenoble, l'école de management.
Ah oui, non, oui. Pas... Alors chaque fois que je vois GEM, voilà.
Donc c'est des groupes d'entraide mutuelle, tu peux dire juste en quelques mots, parce que je ne sais pas si tout le monde...
Ce sont des associations de jeunes malades psychiques, enfin oui, plutôt des jeunes gens, et qui fonctionnent en association. Il y a un CA, ils ont bien sûr aussi une association de tutelle qui peut les aider. Ils ont des animatrices, des coordinatrices qui les structurent, mais ils sont autonomes, ils gèrent, ils ont un budget donné par l'ARS annuel. Et chaque jour, ils ont des activités, ils se regroupent. Enfin, il y en a un à Grenoble qui est très actif, le Recoin. Mais il y en a sur le territoire, à Bourgoin, à Villefontaine. C'est un lieu vraiment d'autonomisation de, je pense, de ces,
donc, c'est-à-dire,
de
donc
ces personnes.
La personne handicapée, ce que j'entends, c'est effectivement sujet de droit. Effectivement, ça semble intéressant puisqu'il y a eu la loi de 2005, mais également il y a la Convention internationale pour les droits des personnes handicapées qui pareil, inscrit le handicap vraiment dans une perspective de droit des personnes et qui est vraiment...
En tant que citoyen aussi responsable, en fait, de,
tout à fait,
de sa vie.
Et puis, effectivement, je pense sur le champ du handicap avec le défenseur des droits qui c'est un... On voit qu'il se saisit, enfin, qu'il est saisi régulièrement par des familles. Là, on va peut-être basculer, pour tout à l'heure, sur l'aspect limite, sur la non-application des droits, mais qui réaffirme sans cesse et en permanence que oui, un enfant a le droit d'aller à la cantine avec tout le monde et de papier plus cher, que oui, il a le droit d'aller au centre de loisirs. Enfin, vraiment, c'est, effectivement, c'est... moi, enfin, de l'extérieur, hein, j'ai vraiment ce sentiment-là que la personne handicapée devient un sujet de droit. Quoi,
de droit.
Comme les autres.
Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, là, oui.
Monsieur Signan,
sur cette question. Pour compléter et rebondir sur ce que vous dites, la loi de 2005 a aussi, dans le monde de l'entreprise, en général, libéré un peu la parole, si je me souviens ainsi, c'est-à-dire que on a quand même eu de plus en plus de personnes qui n'ont plus peur d'aller vers la médecine du travail ou vers le médecin traitant pour faire reconnaître leur handicap ou la situation de handicap qu'ils vivaient dans le monde de l'entreprise. Et alors, c'est vrai que d'un même côté, ça fait qu'on a une augmentation des demandeurs d'emploi ayant une reconnaissance de travail handicapé. Puisqu'il faut savoir que globalement, entre 2008 et 2018, en 10 ans, on est passé quasiment de un peu moins de 300 000 demandeurs d'emploi ayant une reconnaissance pour un handicapé à plus de 500 000. Donc, mais au moins, ça a libéré, si c'est peut-être un aspect un peu négatif, mais en tout cas, le positif, c'est que ça a libéré la parole et surtout, ça fait prendre conscience dans le monde de l'entreprise que l'handicap créer des situations qui étaient vraiment discriminantes en termes d'employabilité et même en termes de rémunération, en termes d'évolution et de formation.
Très bien, merci beaucoup. On va passer à la question des limites. C'est pareil, je recommence mon petit tour de table. Pardon.
Je voulais réagir à la
vision est bon au niveau temps.
Question de à la boutade un peu provocatrice. J'ai trouvé pourquoi une loi sur le handicap et le handicap psychique. C'est vrai qu'on pourrait se passer de loi pour la discrimination féminine aussi dans les entreprises, etc. Dans une société idéale, on pourrait effectivement ne pas créer ces lois. Mais le handicap avait besoin de cette loi. Moi, je parle bien sûr du handicap psychique, pour lutter contre les discriminations, le regard quand même très de la société très négatif sur les malades psychiques. Et je pense qu'à un moment donné, le législateur qui représente l'État, la République, doit se poser la question. Comment faire changer le regard sur les personnes qui en ont le plus besoin? Donc c'est, je pense, une loi de solidarité, en fait.
Et pour changer le regard, très clairement,
et on change le fait, voilà, le législateur a dit, que peut-on faire pour améliorer cette prise de conscience?
Voilà, avec l'idée, tout le monde a les mêmes droits. Mais en fait, pas tout à fait.
Et donc, on essaye de corriger un peu. Il y a encore du travail, je vous assure.
Tout à fait. Donc, sur le travail, justement, on recommence par un petit tour de table de chacun. Sur la principale limite, à vos yeux, de cette loi, enfin, là où ça a péché, soit par non-application, ou bien parce que la loi n'allait pas suffisamment loin. Monsieur Signan.
Alors moi, je vais rebondir sur ce que madame la vice-présidente a dit tout à l'heure. La loi a 15 ans, donc elle est à l'adolescence. Et ce qui est dommageable, c'est que il y a un peu, alors c'est rien de politique mon propos, hein, ne vous prenez pas, mais il y a une forme de un peu de frénésie réformatrice aujourd'hui. On a fait une première loi en 75, il a fallu 30 ans pour qu'il y ait une nouvelle loi construite avec l'ensemble des partenaires de la société civile et de la société professionnelle. Et là, en l'espace de 15 ans, aujourd'hui, on est en train d'essayer de relancer des réformes avant même qu'on ait pu appliquer dans l'ensemble de ces branches, de ces axes, cette loi de 2005 qui est d'une richesse absolue. On pose déjà des nouvelles réformes, des changements.
À quoi vous pensez, parti?
Oh ben nous on est directement touchés sur les entreprises adaptées puisque j'ai la chance d'avoir un peu de tribune rapidement cet après-midi. Donc nous le modèle d'entreprise adaptée, on l'a dit, c'est un véritable outil de compensation pour l'accessibilité à l'emploi au niveau auprès des entreprises classiques. Il y a une complémentarité. Aujourd'hui il y a à peu près 35 000 salariés en situation de handicap en entreprise adaptée et on estime en France qu'il y a entre 300 et 320 000 équivalents temps plein de personnes en situation de handicap dans les entreprises. Donc en personne à peine 10%. Et nous, l'EA a vraiment été mis comme un outil d'accessibilité. L'entreprise adaptée a vraiment été utilisée comme un outil d'insertion durable. Notre job à nous, c'est de proposer à des personnes en situation de handicap très éloignées de l'emploi, ou que des personnes en général qui ont entre 2 et 3, voire plus, années de sans travail. D'accord ? Donc notre objectif, nous, on n'est pas sur de la précarité, on n'est pas là pour recréer la précarité, on est un outil d'inclusion.
Surtout vous êtes en milieu ordinaire.
Non, en milieu ordinaire. Et pour rebondir sur ce qui était dit de la science de loi, l'inclusion, c'est de créer un chez-soi pour tous, dans un global pour nous. D'accord ? Donc l'entreprise AT crée ce chez-soi pour tous en termes de travail. Aujourd'hui, il y a une volonté réformatrice avec des expérimentations, après on peut discuter de tout, mais qui nous inquiète un petit peu parce qu'elle voudrait nous positionner de la même manière que nos cousins éloignés qui sont l'insertion par activité économique dans un processus pré-inclusif, oui. Alors que nous sommes déjà positionnés dans le processus d'inclusion.
Alors, en fait, si j'ai bien suivi l'affaire, ce sont des tremplins, c'est ça?
Oui, c'est des tremplins, les EITT, en fait, etc., etc. Donc on pourra en parler. Alors peut-être qu'il y a des outils qu'il faut complémenter, on l'a dit, la loi n'a que 15 ans.
C'est des tremplins, en fait, ce sont des CDD pour des personnes handicapées, qu'on estime pas prêtes à aller en milieu ordinaire tout de suite, mais pas trop loin de l'emploi quand même, avec l'idée qu'elles ne restent pas dans l'entreprise adaptée ensuite.
Excusez-moi, je vais être brutal avec vous, on n'en sait rien. Donc globalement, si on avait ces éléments-là, mais ça serait merveilleux si on savait dans un public demandeur d'emploi et en reconnaissance handicapée ceux qui sont qui pourraient accéder à plus ou moins court terme à l'emploi en entreprise classique et ce non. Voilà, l'objectif c'est de donner une place pour tous dans notre société de travail. Et donc je terminerai pour ne pas être trop long, qu'effectivement, ce que je peux regretter, alors c'est mon point de vue, peut-être d'autres auront des points différents, mais cette loi de 2005, elle était tellement riche qu'il lui faut du temps, et qu'il aurait fallu du temps, pour en étant appliqué de manière, on va dire, intangible sur l'ensemble du territoire, parce que là aussi, on pourra en discuter, je pense qu'on est en Isère ici, mais on va dans les différents départements, ne serait-ce que de la région Aura, on se rendra compte que, suivant les spécificités des territoires et des applications diverses et variées, c'est une loi nationale, il aurait fallu la pousser au maximum de ce qu'on peut l'utiliser, et non pas peut-être de manière un peu prématurée, vouloir commencer à réformer, et parfois pour des raisons qui sont, à mon sens, un peu trop budgétaires et pas forcément sociétales.
Très bien. Donc,
merci.
Une limite, effectivement, c'est on n'utilise pas suffisamment ce bel outil et on va casser certaines choses.
Essayons de le pousser au bout. Et après, on pourra éventuellement faire le bilan et faire évoluer les choses.
Madame Lombard, sur la limite qui n'a pas été appliquée, ce qui manquait dans la loi.
Alors, pour moi, la situation aujourd'hui, elle est vraiment liée à cette notion de société inclusive. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. La société n'est pas encore prête à accepter tous ses membres, quels qu'ils soient, avec leur vulnérabilité, leur fragilité. On a encore beaucoup de représentations négatives, qui sont les représentations ancestrales de la déficience, comme incapacité. Enfin, ce que vous disiez tout à l'heure était tout à fait dans ce sens. Et là, la loi, elle prévoyait pas grand-chose là-dessus.
Non, parce qu'en fait, effectivement, le terme société inclusive est né, a émergé après la loi. En fait.
Avec, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, je l'avais pointé, la grande multiplicité de travaux de recherche, de rapports ministériels, que ce soit thématique ou que ce soit plus généraliste. Hein, moi qui milite depuis des années, pendant des années, en bibliographie, il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, on a pléthore de références. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, ça va forcément porter ses fruits. Il n'empêche que la loi ne prévoyait rien de particulier sur la société inclusive et que l'inclusion, ça se décrète pas, ça se construit. Et donc, pour construire une société inclusive, faut pas croire que mettre les enfants dans l'école ordinaire, ça va suffire. Bien sûr que c'est un levier extrêmement important, hein, mais ça va mettre des années et des années. Parce que c'est pas parce qu'il y a un enfant handicapé dans une classe ou dans une école que tous les enfants et les parents des autres élèves vont évoluer dans leur mentalité. Donc là, effectivement, cette loi, elle aurait peut-être pu prévoir des choses un peu plus proactives, la formation des enseignants, par exemple. Monsieur Macron en a parlé à midi. Voilà. Et puis le deuxième point qui me semble ne pas avoir été mis en œuvre et qui était prévu dans la loi, c'est l'équité de traitement sur les territoires. C'était clairement noté dans, je crois, le deuxième article, hein, l'État est garant de l'équité de traitement sur les territoires. Et là, on n'en est pas là. Encore, notre président en a parlé à midi lors de sa conférence de presse. Alors, c'est vrai qu'il y a des territoires où ça fonctionne bien. Moi, pour connaître quelques personnes hors de l'Isère, je pense qu'on n'a pas à se plaindre ici. Mais c'est pas partout pareil. Et là, il y a un gros travail à faire encore.
Effectivement, les délais de traitement peuvent être plus ou moins importants sur les départements, notamment sur les dossiers MDPH. Madame Braudakis,
Je partage ce que vient de dire ma collègue là sur la société inclusive, tout le travail qui reste à faire sur voilà. Et sur l'inégalité des territoires, on voit même au sein de l'Isère entre voilà, les grandes agglomérations et puis il y a des territoires ruraux qui ne sont pas couverts par au niveau des soins par exemple par des CMP, par l'accompagnement. Voilà. Et puis, donc, moi, je voulais revenir sur... Donc, il y a eu la création des MDPH, quand même, hein, en 2015.
Oui.
Et ça, c'est capital, puisqu'on va avoir tout à l'heure nos ateliers dans ces lieux. C'est dans la MDPH qu'il y a la prise en compte des accompagnements nécessaires de nos proches. Et là aussi, il y a des inégalités. Et on voit bien dans la... Alors, et il y a... c'est une question aussi de formation. Parce que il y a une commission qui, par exemple, étudie les notifications, où orientons-nous telle ou telle personne, qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme accompagnement. Et on voit, par exemple, pour la fameuse PCH,
la prestation de compensation du handicap,
elle est très peu accordée aux malades psychiques. Je reviens donc aux malades psychiques. Donc on se pose vraiment de réelles questions. Parce que cette PCH, si elle était accordée aux malades psychiques, il pourrait, par exemple, considérant le logement accompagné, il pourrait se réunir pour avoir des résidences communes et avec la PCH, prendre un salarié, une auxiliaire qui pourrait les aider à l'entretien, voilà, journalier de leurs appartements, etc. Donc, et cela bloque un peu aussi la création de résidences accueil. On n'a pas de résidence accueil pour les malades psychiques en Isère. Donc, on a vraiment un problème d'hébergement avant et de logement, qui accepterait aussi des handicapés. Voilà.
Non, mais c'est vrai que la compensation, effectivement, la PCH est très difficilement accessible.
Elle est très difficilement accessible. Et c'est vraiment un combat national qu'on a là-dessus. On a décidé de travailler sur l'accessibilité, les problèmes d'accessibilité à l'éducation, etc., et à la PCH. Pour nous, c'est vraiment le nœud de beaucoup d'accès à des compensations.
Monsieur Quentin, quand vous évoquiez tout à l'heure le marché de dupes, vous aviez en arrière-pensée peut-être...
Là, je parlais de cette disparition de structure au profit d'une sorte de libéralisme où on saupoudre avec un peu d'argent ce que les parents pourront faire maintenant à la place de...
Ce que soulignait Monsieur Simian sur l'emploi et ce que soulignait...
Mais si je peux me permettre de parler d'un autre aspect, une des limites, à mon sens, enfin une des limites, un des risques de cette loi de 2005... on se rappelle qu'un des mantras, c'est l'idée d'accessibilité, le terme d'accessibilité. Et un des risques qui est couru, c'est de trop se focaliser sur l'accessibilité technique, physique. Et j'ai envie de dire à chaque fois, l'accessibilité, c'est pas qu'une question de porte large, de logo et d'étages adaptés. J'aime bien citer une amie qui s'appelle Annelise Chabert, et qui m'a permis de trouver ce concept d'accessibilité relationnelle. On oublie l'accessibilité relationnelle. Alors, je donne cet exemple. Annie Chabert a un handicap, mais elle aime beaucoup aller à la piscine. Elle arrive dans une piscine qu'elle connaît, où il y a un bras articulé qui lui permet de descendre dans le bassin. Alors déjà, c'est une première chose, mais il se trouve que le jour où elle arrive, le bras articulé est en panne. Et là, les maîtres nageurs, enfin les personnes de l'accueil, lui disent « bah non, vous pouvez pas rentrer parce que le bras articulé est en panne ». Donc vous voyez, quand on est focalisé sur l'accessibilité technique, on oublie l'élémentaire. L'élémentaire, c'est que Annie Chabert n'est pas très lourde, que si on lui demande, elle dira qu'elle peut très bien être portée dans les bras d'un maître nageur, hein, qui sont en général assez costauds, qu'ils pourront la déposer dans le bassin sans problème. Encore une fois, elle peut le dire, elle peut communiquer, on peut communiquer, on peut demander, parce qu'il peut y avoir des types de handicap où il y aurait des précautions à prendre spécifiques, où ça serait dangereux, des choses comme ça. Mais si on discute, elle dit non, il n'y a aucun problème, vous pouvez me prendre dans vos bras, me déposer dans le bassin, mais c'est comme si, une fois qu'on a réglé les problèmes d'accessibilité technique, ça nous sert de prétexte pour dire, ben maintenant, les handicapés, ils se débrouillent, on a plus à s'occuper d'eux. Et là, on oublie le fondamental qui est, nous devons aller vers une société d'accessibilité relationnelle.
Mais ça, c'est pas la loi qui décrète ça.
Sauf que si la loi, bien sûr, mais si la loi nous focalise sur cet aspect-là, on ne parle que de ça, on ne pense qu'à ça. On pense que logo, plan incliné, porte large, on ne pense qu'à ça. Et il faut peut-être revenir sur les fondamentaux
C'est vrai que vous avez raison, puisque moi, parmi les principales limites de la loi de 2005, je voyais la question de l'accessibilité physique. Puisque effectivement, dans la loi, c'était marqué clairement, noir sur blanc. En 2015, la France sera accessible. On a vu que cela n'a pas été. Il y a eu des ADAP qui ont retardé l'échéance au mieux de 3 ans, 6 ans, 9 ans. Avec, pareil, la question de l'accessibilité du logement qui a été revue à la baisse avec la loi Elan. Enfin, on voit effectivement que... Donc je me sens un petit peu concerné par ce que vous dites, puisqu'effectivement, moi, j'ai pensé accessibilité physique...
Tout le monde réagit comme vous.
Mais l'accessibilité, moi, je dis toujours, l'accessibilité devrait se conjuguer au pluriel. Hein. C'est les accessibilités. On parle de l'accessibilité physique, mais pas que. Dans un musée, par exemple... Si vous demandez un audioguide pour déficients intellectuels qui puisse vous faire visiter l'ensemble du musée avec des phrases simples, qui ne passe pas 15 minutes devant chaque poste, devant chaque tableau, juste pour dire là, voilà, ce qu'il faut voir, c'est ça. C'est pas très compliqué à mettre en place.
Mais ça, c'est effectivement, c'est pas prévu par la loi, mais c'est plus dans cette mentalité dont vous parliez, dans cette approche, où on va se focaliser sur le musée accessible.
Physiquement,
et pas forcément dans l'accès aux œuvres.
Voilà. Et ça, c'est important parce que si vous prenez, par exemple, la population des plus lourdement handicapés, des polyhandicapés, je veux dire, eux, l'accessibilité, ça sera jamais ni le scolaire ni l'emploi. Donc, comment on va leur donner une vraie place dans la société si, ils peuvent aller faire le marché de Noël en ville, un musée, voilà. Il y a beaucoup de choses dans l'accessibilité, hein. Et je rappelle quand même que l'accessibilité, c'était plus d'un tiers de la loi. Il y a 36 articles sur l'accessibilité dans cette loi, sur une loi qui en compte 100, hein. Et c'est sur ces articles-là qu'on a le plus, tardé à avancer, voire reculé, puisqu'on a mis effectivement par ordonnance des délais supplémentaires. Là, je parle de l'accessibilité des bâtiments, hein.
Très bien. Oui ? Non. Juste un point encore sur les limites, c'est en matière d'éducation, parce qu'effectivement, je disais tout à l'heure, c'était un acquis, mais effectivement, est-ce que la scolarisation aujourd'hui se fait dans des bonnes conditions? Et on n'a pas l'impression de ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à la fois, parce que le statut des AESH n'est vraiment pas fantastique, et donc c'est un boulot, même si ça s'est amélioré, c'est qu'il reste très précaire, avec un volume horaire faible, des faibles rémunérations, des dernières interventions qui peuvent être ici, enfin bref, que les enseignants ne sont pas forcément tous formés, et quand je dis ça, c'est un euphémisme. Enfin, effectivement, sur cette question d'éducation qui paraît pourtant assez fondamentale, effectivement, il y a une forte progression quantitative, qualitativement, je ne sais pas, et deuxième point sur l'éducation, je ne vous sentais pas forcément très...
Alors, sur l'éducation... Je pense qu'on a des situations extrêmement diversifiées. On a les extrêmes. Effectivement, il y a des situations où ça se passe pas bien, où l'enfant est pas vraiment bien accueilli, où les enseignants sont pas formés, il y a pas assez d'heures d'AESH, etc., etc. Il y a pas de transport. Enfin, ça peut être la totale. Hein. Mais il y a aussi des situations depuis la loi de 2005 qu'on n'aurait jamais vues avant. Hein. Moi, je connais une famille d'une petite fille qui a 7 ans et demi maintenant. Quand le diagnostic a été posé et qu'elle a la famille a compris que l'enfant serait handicapé, elle devait avoir 2 ans. Alors déjà, c'est une famille qui a fait un dossier MDPH très tôt. Et ça, c'est quand même assez rare. Il faut effectivement souligner que ça ne peut qu'aider à la situation, à la prise en compte. Et cette famille, à l'époque, disait « Oh ben moi, je sais que quand ma fille sera grande, elle ira en IME. » Et aujourd'hui, la maman dit « Mais non, elle n'ira pas en IME. Elle va faire son parcours en milieu ordinaire. » Simplement, c'est une famille qui a réussi à fédérer autour de la problématique de cette petite fille l'ensemble des acteurs. La crèche, quand il s'est agi de rentrer en maternelle, le psychologue scolaire, les rééducateurs. Hein, et ils ont fait la même chose pour l'entrée au CP. Résultat, elle a une situation qui est satisfaisante. Mais à quel prix? À quel prix? Je disais tout à l'heure, pour cette famille, quand elle a fait le dossier MDPH, à l'âge de 2 ans, le papa avait fait le décompte du nombre de rendez-vous pour leur fille. 250 rendez-vous dans l'année. Entre les rééducateurs, les médecins, les bilans à droite, bilans à gauche. Oui. Comment vous voulez qu'une famille puisse gérer ça toute seule, sans compter la nébuleuse des PAP, PPI, et j'en passe, et des meilleurs, même moi, je
m'y perds. Des plans, voilà. Des plans d'accompagnement donc, d'enfants personnalisés.
Moi, je pense que si on veut réellement avancer au niveau de la scolarité et de l'inclusion des enfants, il faut créer des dispositifs qui soient des vrais dispositifs d'aide, pas uniquement des lignes téléphoniques de conseil ou d'écoute. Hein. Monsieur Macron a annoncé une ligne unique pour que les familles puissent obtenir des renseignements. Ok, mais ça ne suffira pas. Il faut sur le terrain, en proximité, des gens qui montent au créneau avec les familles, qui les aident pour de bon.
Très bien.
Pour compléter ce que dit madame, dans le domaine de du repérage, on va dire, des troubles psychiques chez un enfant, c'est très délicat. On commence, en fait, depuis quelques années, il y a quand même, bien sûr, la spécialisation de la pédopsychiatrie, qui est un parent pauvre de la psychiatrie. On manque beaucoup de pédopsychiatres. Et c'est vrai que ces enfants vont, en général, dans le milieu scolaire ordinaire. Mais ils ont des comportements, voilà, qui sont... on va dire inadéquat dans un groupe. Donc il y a tout un travail collectif qui doit être fait autour d'eux et par des équipes pluridisciplinaires. On est toujours autour de formation là. Il ne s'agit pas seulement de former l'enseignant, il faut aussi l'infirmière scolaire, il faut un accompagnement. Et c'est très délicat parce qu'il ne faut pas le confondre en allant vers l'adolescence avec la crise d'adolescence. Mais il y a un accompagnement maintenant de plus en plus proche de ces enfants qui ont des troubles. Même si c'est encore controversé.
Juste un point, parce que c'est vrai qu'on fait un bilan de la loi, enfin on essaie de faire un constat sur la loi de 2005. Souvent, on a tendance à regarder ce qui ne va pas, et c'est aussi bien de regarder ce qui va. C'est vrai qu'en 15 ans, aujourd'hui, on est en 2020, on a l'impression, on regarde le verre à moitié vide, alors que le verre il s'est quand même bien rempli, et que la loi de 2005 a ouvert, les champs du possible. Et après, c'est aux acteurs qui sont mis en place à faire vivre la loi, et c'est pour ça qu'il faut du temps, et que 15 ans, c'est rien. Oui, dans un monde qui bouge énormément, mais c'est rien aujourd'hui avec 15 ans. Et il faut faire aussi attention, on a un peu tendance, et là je reprends sur le travail, parfois à vouloir mettre en avant des exemplarités. Aujourd'hui, par exemple, par rapport au métier du numérique, on parle beaucoup des autistes Asperger.
Voilà. Ici, à Grenoble, comme adjoint, qui a
voilà. Donc, c'est bien, ça fait partie des exemples de ces champs du possible. Par contre, il ne faut pas oublier que près de 90% des handicaps ne se voient pas. Donc s'il n'y a pas effectivement cette dimension relationnelle et qui est encore plus développée, je dirais, dans des entreprises adaptées, mais comme chez nous, on ne peut pas essayer d'amener un contexte inclusif s'il n'y a pas cette prise en compte de cette différence qui existe, qu'on le veuille ou non. La nier, ce serait au contraire aller à l'encontre de l'esprit de la loi.
Merci. Monsieur Gantin, peut-être un petit mot pour conclure, avant que nous allions vers les...
Conclure sur 15 ans de...
non, mais oui, je veux dire, par rapport à nos échanges, les choses qui ressortent, effectivement, on voit qu'il y a des croisements, ce que vous avez dit auparavant, des inquiétudes, des... voilà.
Oui. On est au croisement de difficultés variées, l'école est un exemple. C'est-à-dire, d'un certain côté, on a eu une longue tradition en France... d'établissements qui étaient séparés, où on isolait, mais qui permettaient de bien s'occuper des enfants quelque part. Donc il y avait une sorte de... Un ghetto éducatif, c'est sécurisant.
Oui.
Donc on avait des ghettos éducatifs, mais ils étaient sécurisants. Supprimer un ghetto éducatif, c'est pas sécurisant du tout, donc il y a de l'angoisse, il y a beaucoup d'inquiétude, et il y a beaucoup de parents qui peuvent être plus inquiets qu'avant. Mais en même temps, c'est l'aventure qui est la nôtre, hein, et qui est, on a un monde nouveau, en reprenant la métaphore fameuse du verre à moitié vide ou à moitié plein, si on voit le verre à moitié plein, ouvrons-nous à ce nouveau monde et soyons pleins d'optimisme et d'espoir et faisons au mieux.
Très bien, merci beaucoup. Mais de toute façon, là, il y a monsieur Delmotte qui va venir nous expliquer comment ça va se passer pour les ateliers, puisqu'effectivement, c'est un peu l'idée, quoi. C'est-à-dire que là, on a posé un constat. Forcément, on avait un temps limité, donc on n'a pas pu tout explorer. Mais voilà, je veux dire, on voit quand même des choses qui se dessinent, effectivement des inquiétudes par rapport à aller vers ce milieu ordinaire, cette logique d'une société inclusive, les questions que ça pose. Oui, allons-y, mais pas n'importe comment. Et donc, c'est un peu l'enjeu de ces ateliers, je crois, hein, c'est bien ça. C'est justement de pouvoir faire émerger des propositions qui seront remises au conseil départemental et qui pourront être débattues par les élus, c'est bien ça, M. Delmotte, tu peux les expliquer en quelques mots.
Merci.
Donc ne bougez pas tout de suite, sinon vous allez vous perdre.
Oui, bonjour à tous, encore un peu d'attention, s'il vous plaît. Donc, comme M. Sorel a dit, on va se rendre pour certains d'entre vous dans les ateliers qui auront lieu à la Maison de l'Autonomie. L'idée, vous allez voir, il y a des animateurs, il y a des rapporteurs, on a préparé ça merveilleusement, mais l'idée, c'est de faire émerger deux propositions par atelier, par rapport à la loi, par rapport à de nouvelles initiatives à prendre ou à améliorer. Alors,
pour être débattu, pour ça, c'est bien ça l'idée, ça.
Alors, s'il le faisait, ce serait merveilleux, mais on compte sur lui. Mais il n'y a pas que le département. On va aussi, et l'idée, c'est d'interpeller nos représentants nationaux, députés et sénateurs, puisque, bien sûr, beaucoup de choses se passent au niveau national. Il y aura à la fois interpellation donc du département, de la région aussi, pourquoi pas, et des représentants au niveau national. Et il y aura ce soir notamment un sénateur qui pourra écouter tout ce qui a été pensé cet après-midi. Voilà. Alors pour la bonne marche des ateliers, parce que le temps est un peu contraint, je vais vous demander votre attention. Tous les ateliers se passent à la Maison de l'Autonomie, sauf l'atelier éducation qui a lieu ici à GEM. Donc je demande aux personnes qui sont inscrites à l'atelier éducation de rester dans l'auditorium pour le moment, d'attendre que les autres soient sortis, et puis après ils seront guidés par Madame Sirec vers la salle de cours où aura lieu l'atelier éducation. Pour les autres, vous allez vers la Maison de l'Autonomie, vous essayez de repérer le lieu de l'atelier, il y en a trois au premier étage, il y en a un au septième, il y en a un au rez-de-chaussée, l'atelier emploi est au rez-de-chaussée, le long du en face du palais de justice, et on va essayer d'y rentrer directement par l'issue de secours, si je peux dire.
Ouais. Et ensuite, on se retrouve.
Alors, encore une seconde, s'il vous plaît. À la fin des ateliers, le département vous sert une petite collation en salle de conférence, donc avec de bons produits 01 à ne pas manquer. Et puis, on se retrouve ici à partir de 18h pour la...
18h30.
La soirée qu'il y aura
18h30.
Non, on peut arriver ici à partir de 18h. Vous verrez qu'il y a des petites vidéos qui vont défiler, etc. À 18h30, on commence effectivement par la restitution des ateliers et bien sûr le film de Michel Samprouche sur la société inclusive. Voilà, on se retrouve tout de suite.
Merci beaucoup.